Audiolib présente Les Orangers de Versailles, tome 2, Parfum de meurtre, d'Annie Pietri, lu par Emilou Homs. Préambule. Voici les événements qui se sont déroulés dans Les Orangers de Versailles. Nous sommes en juin 1674. Louis XIV est roi de France depuis 31 ans. Marion Dutilleul est la fille d'une servante et d'un jardinier. Elle porte au cou une médaille en or que sa mère, Marie, morte très jeune, lui a laissée en héritage. Son père, Antoine, travaille à l'orangerie du château de Versailles sous les ordres de Monsieur le Nôtre. À 13 ans et demi, petite pour son âge, maigre, pas très jolie et insomniaque, Marion entre au service de la favorite du souverain, la marquise de Montespan, surnommée Athénaïs. Elle partage une chambrette sous les toits du palais, avec Lucie, une autre domestique. Grâce à l'amitié et à la débrouillardise de Lucie, mais surtout à un don extraordinaire, celui de créer des parfums merveilleux, Marion parvient à garder sa place de servante auprès de la capricieuse et exigeante marquise. Hélas, intrigues et complots démoniaques germent dans la jolie tête d'Athénaïs. Elle est prête à tous les compromis pour assouvir ses désirs de gloire, assurer sa fortune et conserver sa place de favorite en titre. Formidablement riche, elle peut acheter le dévouement, la complicité, les services et le silence de bon nombre de vauriens. Elle se plaît en la compagnie des sorciers et en particulier de Catherine Monvoisin, dite « la voisin », la plus experte des empoisonneuses, dont les conseils lui sont précieux. La femme Monvoisin procure à sa plus prestigieuse cliente toutes sortes de mixtures, élixirs, poudres ou onguents et même des poisons. La marquise n'hésite jamais à en faire usage lorsqu'elle décide de mener à bien un funeste projet. Mais c'est sans compter la très forte personnalité, la perspicacité et surtout le don de Marion. Ce don qui lui permet de mémoriser et reconnaître n'importe quelle odeur, bonne ou mauvaise. Grâce à son nez, la jeune fille sauve la vie de la reine Marie-Thérèse. Le roi apprend très vite que sa douce amie, la belle Athénaïs, est à l'origine du complot contre son épouse. Dans un premier temps, il décide de se taire. Mais ensuite, de manière fort habile, il la punit. Devant toute la cour, il marque sa reconnaissance à Marion en la nommant officiellement parfumeuse de la reine. Marie-Thérèse est ravie. De son côté, la favorite, ivre de jalousie et atteinte dans son amour-propre, ne sait si elle pourra un jour se remettre de ce royal affront. Chapitre 1. Versailles, 5 ans plus tard, le mercredi 1er mars 1679. L'après-dîner était bien avancé. Marion se trouvait dans le cabinet des parfums, situé à quelques pas du Trianon de porcelaine. Depuis que le roi lui avait offert le petit pavillon pour y exercer l'art de la parfumerie, la jeune fille avait apporté à ces lieux quelques modifications. Le luxueux mobilier, les vases de la Chine, les bustes en porphyre bleu, les tableaux, les boiseries dorées et les tentures de soie brodées de ramages multicolores avaient rejoint les remises du garde-meuble royal. Le salon raffiné, où Louis XIV et Madame de Montespan aimaient à se reposer aux heures chaudes des journées d'été, avait été repeint en blanc et était devenu une simple salle d'études dédiée à la botanique. Marion y avait fait installer de grandes tables et des étagères sur lesquelles étaient disposés des bacs de terreau. C'était là qu'elle menait ses recherches, sous un plafond qui seul avait conservé sa majesté et ses couleurs d'origine, le bleu, le blanc et l'or, emblème du Trianon de porcelaine. Marion semait, bouturait, taillait et greffait une quantité infinie de plantes odoriférantes. Sa préoccupation était de cultiver des herbes et des fleurs d'une qualité irréprochable. C'était la condition première pour obtenir ensuite les essences rares et précieuses nécessaires à l'élaboration du parfum préféré de la reine Marie-Thérèse. Cette fragrance, Marion l'avait composée exclusivement pour Sa Majesté un an plus tôt, et celle-ci l'affectionnait tant qu'elle la portait chaque jour. Comme toujours, certaines dames de la cour, soucieuses d'imiter la reine, avaient proposé à la jeune parfumeuse des sommes rondelettes pour se procurer un flacon du même parfum. Madame de Montespan, la première. Elle ne pouvait admettre que les plus belles